Le 2 novembre 1789, la Constituante décide de mettre en vente les biens du clergé pour rembourser les dettes de l'État révolutionnaire. Elle crée la caisse extraordinaire afin d'encaisser le produit de ces ventes et émettre les assignats. La valeur de ce papier monnaie est assignée sur les biens nationaux. Ce système paraissait sain dans la mesure où les assignats avaient pour garantie les biens nationaux dont on connaissait la valeur. Les aléas de la conjoncture économique et les nécessités de l'effort de guerre font que les besoins de l'État s'accroissent et nécessitent la multiplication des émissions. Progressivement, les assignats deviennent une véritable monnaie et se déprécient de plus en plus, favorisant la thésaurisation de la monnaie en métal. À 1793, les vendeurs exigent le plus souvent d'être payés en numéraire. De nombreux trafiquants profitent de ce contexte troublé pour mettre sur le marché de faux assignats, aggravant leur discrédit. Dès avril 1793, la nouvelle faisant état d'un trafic de faux assignats dans la région de Castillon et de Saint-Girons accroît le trouble. Dans tout le Couseran, les détenteurs de billets les font vérifier par les hommes de loi avant de les mettre en circulation. Inquiétées, les autorités du district de Saint-Girons décident de réagir. Après enquête, des suspects sont identifiés dans le Castillonnais. Lors d'une perquisition effectuée au hameau La Cabane, près de Sesco, des planches à billets, des morceaux d'étain et une presse sont saisis dans l'atelier d'un sculpteur surnommé Vitalis de Sesco. Quelques jours plus tard, les gendarmes visitent la maison du beau-frère de l'artiste Vitalis et découvrent de faux assignats. Ils les trouvent, je cite, « entre la couette et la paillasse du lit et au dos d'une affiche de la Vierge clouée sur le mur de la chambre ». Après un interrogatoire musclé, il s'avère que cette fausse monnaie provient de Brousse, près de Carcassonne. En juillet 1793, le Haut-Salat est à son tour suspecté. Des enquêtes permettent l'arrestation de Morette de Seixe et de Joseph Laporte d'Oust. Les faussaires présumés sont arrêtés et transférés devant le tribunal criminel du département de l'Ariège. Joseph Morette, particulièrement visé, est condamné à la peine de mort le 17 août 1793. Dans tous les villages du département, une affiche est placardée annonçant son exécution. Lors des interrogatoires, on fait savoir aux condamnés que les préparatifs de sa mise à mort se déroulent de façon irrévocable. Les pressions psychologiques se font de plus en plus pressantes. On lui fait savoir qu'une grâce exceptionnelle pourrait lui être accordée s'il dévoilait les secrets sur l'organisation de ses complices. À bout de nerfs, Morette décide de parler. On apprend alors qu'il existe un réseau de faussaires dans le Haut-Salat et dans le Massatois depuis 1791. Des individus allaient chercher le papier en Espagne depuis Coufflens et le transporter la nuit chez Vitalis à Sesco. Une fois les assignats imprimés, ils étaient dissimulés sous une grosse pierre à l'intérieur d'une grange. Depuis Sesco, ils étaient alors distribués dans tout le Couseran et échangés contre deux véritables assignats de plus petite valeur. En fait, les décrets de 1790 et 1793 mettant à la disposition des particuliers les biens des ecclésiastiques et des émigrés par le biais des assignats ne concernent que les plus aisés et plus particulièrement les bourgeois des villes comme ceux de Saint-Girons, Massat, Castillon, Seixe, Oust. Sous la terreur, l'État fait un effort pour que ces biens soient achetés par les pauvres. Mais du fait de la dépréciation des assignats, seuls les habitants les plus aisés purent les acquérir. Dans toutes les communes, des milliers d'hectares vont être disponibles pour ceux qui pourront les payer. En quelques années, une véritable révolution financière va bouleverser l'équilibre paysan du Couseran et provoquer parfois des rancœurs et des troubles. Tenez. En Vendémiaire, en deux, des rumeurs provenant de Toulouse circulent. De bouche à oreille, il se dit qu'un décret vient d'octroyer tous les biens nationaux aux défenseurs de la patrie. Ces bruits, largement commentés dans les cantonnements militaires, aiguisent les appétits et les désirs de vengeance. Le 3 Vendémiaire, plusieurs dizaines de volontaires d'RC stationnés à Cap-Vert quittent leur bataillon et descendent dans leur village armés jusqu'aux dents. Il s'empare de la caisse du village et parcourt les rues du bourg en proclamant que tous les biens nationaux sont à eux. Ceux qui avaient acheté ces terrains et bâtiments sont considérés alors comme des usurpateurs et doivent les abandonner sous peine, je cite, d'être attachés à l'arbre de la liberté et fusillés de suite. Rien que ça, rien que ça. Les soldats se répandent dans les prés et les champs de la Moulac et de la Molle de la Ribère, coupent le regain et récoltent les grains des plantations. Le produit de leur labeur est ensuite vendu aux anciens exploitants. Après avoir délogé le meunier, ils installent un de leurs acolytes au moulin à farine. À la différence des terres, les anciens bâtiments des nobles et des prêtres sont particulièrement dédaignés. Au fil des ans, ils deviennent de plus en plus délabrés. Les villageois n'hésitent pas à aller y prendre les matériaux qui leur sont nécessaires. Il en est de même pour certaines églises. À Hercé, la forge est littéralement démolie par les habitants qui vont jusqu'à emporter des pierres. L'ancienne abbaye de Combelong-Arimont, classée bâtiment national, est laissée à l'abandon et soumise à des déprédations continuelles. Le 12 frimaire en 4, le maire de Ribon, ne pouvant vendre ce grand édifice, décide d'intervenir avant qu'il ne devienne une véritable masure. Il réquisitionne des bœufs et des charrettes pour transporter ce qui reste à la maison commune avant que les brigands, je cite, ne s'en emparent. Quand les charretiers arrivent à la Combelong, ils sont assaillis par une foule de paysans qui leur enlèvent, je cite, les planches et autres boisages de vive force des mêmes. Sic. Les gendarmes se précipitent sur les lieux et rencontrent sur le chemin des individus, je cite, portant sur leur tête ou sur leur col des chevrons et des planches de l'abbaye de Combelong. Les forces de l'ordre se bornent à noter ce fait sur le procès-verbal et continuent leur chemin de façon nonchalante. Les paysans, se disant humiliés par l'intervention des forces armées, incendient alors l'abbaye de Combelong dans la nuit du 16 frimaire en 4. Une aile du bâtiment est irrémédiablement détruite. La mise en vente des biens nationaux est de nature à satisfaire la soif de terre dans un couserant surpeuplé aux parcelles exiguës. Cependant, les modalités de vente favorisèrent la bourgeoisie rurale, les commerçants et les artisans. Ces catégories sociales détenaient en outre le pouvoir politique dans la commune. Pour les brassiers et les petits paysans, cette élite financière était assimilée à l'État. Les plus indigents choisirent toutes les occasions pour améliorer leurs droits et prérogatives, allant jusqu'à se servir eux-mêmes. Vous l'avez constaté vous-même ce soir. Je vous remercie pour votre